RCF.
Pour faire la transition, Catherine Rollet, entre le 19e et le 20e siècle, on avait envie de parler des jouets, parce que le 19e, c'est une période où, on l'avait dit, les jouets existaient bien avant, mais là, on voit apparaître des choses tout à fait ravissantes, souvent, et qui commencent vraiment à se généraliser.
Oui, tout à fait. Le 19e, avec son inventivité industrielle, sa capacité à produire des objets en masse, en effet, va percer un marché des jouets, un marché des vêtements, un marché
de la puériculture,
un marché progressivement aussi un peu plus tardif de la chambre à coucher, du mobilier, etc. On prend en compte de plus en plus les besoins spécifiques de l'enfant. On fabrique des objets qui sont à sa taille et on va fabriquer en effet des millions de jouets et aussi de livres.
La littérature enfantine, on n'en a pas parlé, mais c'est
la littérature enfantine,
un chapitre, si je puis dire.
C'est tout à fait un chapitre, oui. C'est quelque chose qui s'épanouit à la fin du 19e siècle. Et d'ailleurs, renforçant le rôle de l'école dans la société vis-à-vis de l'enfance. Et donc, ces jouets, ce sont un peu des miniatures des objets des adultes. Et d'une certaine façon, c'est un apprentissage au rôle que l'enfant jouera quand il sera adulte.
Donc les petits services à thé,
voilà.
Les petites poupées en porcelaine pour
voilà,
les filles.
Très fragiles, etc.
Et pour les garçons, les locomotives.
Oui, tout ce qui fait penser à la vie industrielle aussi. Les Allemands étaient très forts pour produire, par exemple, des petites usines, etc., comme jouets pour les enfants. Mais il y a aussi tous les objets, malheureusement, de la guerre. Il y a
des soldats,
des petits fusils. On a des catalogues de jouets de princes, par exemple, qui sont... On voit les jouets de Napoléon, du roi de Rome, du fils de Napoléon III également. Énormément d'armes.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que donc vous dites que d'un côté, on se préoccupe beaucoup plus de l'enfant dans tous les domaines, mais qu'il faudra attendre quand même encore des décennies pour qu'il soit véritablement considéré comme une personne à part entière, douée d'une sensibilité, douée d'un désir, même tout petit, dès ses premiers jours, dès ses premiers mois.
Oui, il faut attendre encore des décennies. Très frappant est le fait que la première déclaration des droits de l'enfant date de 1924. Elle est la production de la Société des Nations, la jeune Société des Nations qui s'est mise en place après la guerre de 14. Dans cette déclaration que j'ai lue, elle tient en 5 phrases. L'enfant doit être protégé, l'enfant doit être, etc., alimenté, etc. Mais c'est une sorte de devoir de la nation envers l'enfant, mais on ne voit pas que soit prise en compte là une connaissance fine de tous les besoins de l'enfant. On garde encore, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, une vision encore tronquée de l'enfant, de sa personnalité, de son identité.
Considéré comme
un
petit être qu'il faut simplement nourrir et laver, en gros.
Qu'il faut protéger, qu'il faut nourrir, qu'il faut laver, mais qui n'a pas encore vraiment de personnalité, qui n'est pas encore totalement un enfant avec sa personnalité, son identité propre, unique et individuelle.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on prend conscience de cette dimension-là qui aujourd'hui est une évidence?
Alors, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est le décalage entre la connaissance qu'on peut avoir des personnalités comme Freud, de ce qu'était un enfant et son psychisme, et l'application de ces idées, de ces connaissances des psychologues, des psychanalystes dans un pays comme la France ou dans d'autres pays avant la Seconde Guerre mondiale. On a l'impression, par exemple, que dans les hôpitaux dans les années 30, les idées des psychologues ne sont absolument pas envisagées.
Dolto en a suffisamment parlé. Elle
voilà,
était
alors,
prise pour une illuminée quand
oui,
elle parlait
tout à fait,
de...
Tout à fait. Alors les premiers à s'émouvoir de cette situation, de cette non prise en compte du bébé, sauf comme d'un corps qu'il faut manipuler soigneusement, enfin bon...
Autant que possible.
Autant que possible, oui. C'est Bowlby et Winnicott. Alors Bowlby dénonce ce qu'on appelle l'hospitalisme, le désespoir des enfants hospitalisés sans contact. Ce sont des enfants prostrés, ce sont des enfants qui ne peuvent pas grandir, qui ont un besoin vital de relations. situation qui va durer dans certains établissements français, pouponnières par exemple, jusque dans les années 60-70. Et aussi, ces spécialistes, pédopsychiatres, etc., prennent conscience de la nécessité justement du lien mère-enfant ou du lien enfant et un substitut maternel. Ça, ça date de l'après-guerre et finalement, ça va inonder la sphère des soins aux enfants, mais avec une certaine lenteur. L'humanisation des hôpitaux, par exemple, ou bien l'humanisation des pouponnières, est un phénomène finalement assez récent.
On dit que vers l'âge de 6 mois, le bébé s'attache à sa mère d'une façon particulière. Mais à l'âge d'un jour...
Extrait d'une conférence de Françoise Dolto.
Tous les jours, c'est particulier. 6 mois, c'est particulier, etc. S'il n'a jamais vu que sa mère, il est évident que de le mettre avec une autre personne, ça va faire une rupture dans son être profond et ça peut faire un grave traumatisme. C'est pourquoi une mère ne devrait jamais élever son enfant en étant seule avec lui. Toujours en groupe, toujours dans le social. C'est cela que j'essaye de promouvoir comme prévention des troubles psychosomatiques et des troubles névrotiques et des troubles psychosociaux, retard de langage, retard de motricité, parce que l'enfant est obligé de rester à ce qui était sa vitalisation, si sa vitalisation ne s'est pas faite dans la vie sociale. Le plaisir de sa mère d'être en vie sociale, en même temps que lui, était en vie sociale, associé à sa mère qui fréquentait des jeunes gens. Ce sont des choses nouvelles parce que les familles sont maintenant nucléaires.
La suite de l'histoire.
Alors quand on pense que pendant des siècles, des générations entières d'enfants ont été privés de leur mère dès les premiers jours, oui, confiés à des nourrices, comme vous nous l'avez raconté, oui. Oui. On se dit que tous ceux qui ont survécu étaient probablement des forces de la nature.
Oui, sans doute, oui. Encore que certains, justement, dans des autobiographies, certains le disent. Et par exemple, Jean-Paul Sartre, je crois qu'il n'a pas vu sa mère avant peut-être 2 ans, et il en parle comme d'une vraie souffrance.
Catherine Relais, pour terminer ces entretiens, on pourrait dire qu'il n'aura échappé à personne que l'enfant est désormais au centre de toutes les attentions, que les soins qu'on leur apporte, et à juste titre, n'ont jamais été aussi poussés, bien avant la naissance même, puisque les progrès techniques aujourd'hui nous permettent de voir un enfant dans le ventre de sa maman.
Oui, tout à fait. Donc l'enfant, centre de toutes les attentions, ça c'est absolument certain, et centre aussi de tout l'investissement affectif des parents. À cet égard, je voudrais dire peut-être 2 choses. D'une part, d'une certaine façon, on peut se demander s'il y a une limite à ce désir qu'ont les parents d'avoir des enfants les plus merveilleux possibles, les plus gratifiants possibles.
L'enfant parfait, en quelque sorte.
L'enfant parfait, oui. L'enfant sans défaut, avec tout ce qu'on connaît autour des enjeux de l'échographie, par exemple, ou de l'assistance médicale à la procréation. Donc là, on peut peut-être se dire qu'il y a une sorte de limite ou d'équilibre à trouver entre ce désir de mieux faire, qui est positif et magnifique, et en même temps, ce qui pourrait correspondre à un manque de respect profond de l'enfant tel qu'il est.
C'est-à-dire qu'on projette sur lui des tas de désirs, des tas de fantasmes.
Voilà. Et donc, qu'une certaine humilité par rapport à cet enfant qui naît, avec déjà, en effet, ses caractéristiques, son identité, puisqu'il a déjà vécu quelque chose in utero, là, il y a un équilibre à trouver. Comment préserver ce désir des parents de mieux faire et de la société en général, et en même temps, ce respect de l'enfant tel qu'il est.
Et pour terminer, peut-être une question qui va vous surprendre, mais l'enfance dure-t-elle autant de temps ou moins de temps au XXIe siècle qu'à l'Antiquité ou qu'au Moyen-Âge, par exemple?
Non, cette question ne me surprend pas du tout. Elle est même très intéressante et je me la suis souvent posée. En fait, le temps de l'enfance a complètement changé à travers l'histoire. Dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, on peut dire, et jusqu'au temps moderne, l'enfance était relativement courte, l'enfant était mis au travail dès que ses forces lui permettaient. Au XIXe, l'enfance est restée courte pour ceux des enfants qui ont dû aller travailler. Il ne faut pas l'oublier, le travail des enfants, qui n'a été limité qu'à partir de 1842. Et à la fin du siècle, au contraire, le temps de l'enfance s'est rallongé, puisque à la première enfance s'est rajouté le temps de l'âge scolaire. Donc l'enfance se terminait à 14 ans, puis même 16 ans au XXe siècle. Donc on a une enfance qui s'allonge pour la majorité des enfants. Et même aujourd'hui, au contraire, on pourrait dire que si le temps scolaire se prolonge, avec l'enseignement secondaire qui est plus fréquent, et même l'enseignement universitaire pour des centaines de milliers de jeunes, d'une certaine façon, à l'inverse, en amont, le temps de l'enfance proprement dite, j'ai l'impression qu'elle se raccourcit avec une sorte d'adolescence ou de préadolescence de plus en plus précoce. Et même un symptôme, c'est par exemple ces sortes de concours de petites filles ou de petits garçons qui commencent dès l'âge de 3-4 ans.
Les minimis.
Voilà. Et qui sont vêtues comme des petites jeunes femmes, maquillées, tout ça.
Donc ça, pour vous, c'est symptomatique d'une enfance qui aurait tendance à être moins longue.
Oui, peut-être. Enfin, c'est une question que je me pose. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les choses ne sont jamais figées et que l'histoire nous montre que tous les groupes d'âge, etc., y compris celui-là, ont connu de très grandes évolutions.
Un très grand merci Catherine Rollet de nous avoir accompagnés dans cette découverte de l'histoire de l'enfance. Je rappelle que vous êtes historienne et démographe, particulièrement autour de l'histoire contemporaine. L'histoire des populations, de l'enfance et de la famille sont au centre de vos recherches et de votre enseignement.
Merci beaucoup, madame.